Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais ouvrir ce sujet, un petit sujet, n'est-ce pas ? Une petite foi qui peut tout changer. Amen. C'est vrai qu'on revoit les débuts, on pense à tout ce que le Seigneur peut faire ensuite, après la conversion, début de ce que nous avons découvert avec lui. En fait, notre Dieu est capable de tout. Il n'est pas capable de forcément de beaucoup de choses, mais lui est capable de tout. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le Seigneur aime à se faire connaître, à se révéler, peut agir dans toutes circonstances, quelles qu'elles soient. Et le bonheur de l'évangile, c'est d'être spectateur de ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu peut accomplir d'une manière inattendue, surprise peut-être, d'une manière ou d'une autre. Mais en toute chose, le Seigneur ne manque pas de nous voir comme ses enfants et de voir qu'il est capable, oui, de, par cette petite foi, faire de grandes choses. Oui, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu, et ça dépend des moyens de Dieu. Hein, ça dépend des moyens de Dieu. Alors, on va relire un texte dans Matthieu 17, 20, pour introduire ce message. 17, 20, il y a des textes qui seraient peut-être à reprendre avec plus de versets. Mais ceci dit, ce verset clé, suite à une délivrance qui n'a pas fonctionné pour les disciples, mais lorsque Jésus arrive, rien ne peut lui résister. Et puis derrière, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi? Et Jésus donnera une réponse, donc il offre une envergure de méditation et d'implication spirituelle pour nous aider à vivre pleinement ce que Jésus prévoit. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Nous comprenons par là que l'évangile, dans sa puissance, son efficacité et cependant, parfois d'une manière où nous ne voyons pas forcément grand-chose, mais il y a aussi des manifestations. Un possédé, quelqu'un qui est chargé et qui a une vie dissolue et contraire à l'évangile, ne pourra qu'amener une manifestation où il y a besoin de l'intervention de Jésus qui libère et qui sauve et qui transforme. Et donc les disciples cherchent à comprendre par leur raisonnement, par leur intelligence. Voyez-vous, on peut être assez limité, on peut essayer de comprendre et c'est bien, mais il y a des choses qui s'expliquent par la parole de Jésus, et c'est ce que Jésus leur dira. La foi comme un grain de sénévé, c'est pas grand chose ça, c'est pas grand chose. Hein. Un grain de sénévé, on pourrait en avoir une bonne flopée dans notre poche, ça se verrait pas. Hein. Et donc nous pouvons le comprendre que souvent on pense qu'il faut une foi immense pour faire un travail immense, pour surmonter un obstacle gigantesque, et Jésus affirme le contraire en fait. C'est pas le rapport des choses tel que nous aimerions, nous voudrions faire. On se dit, Seigneur, il faut une grande foi pour déplacer une montagne, il faut quand même pas moins que ça. Hein. Et donc le Seigneur parle d'un grain de sénévé aux proportions d'une montagne. Imaginez, c'est pas du tout égalable. Et donc, par conséquent, Dieu n'attend pas de nous une foi spectaculaire, mais une foi simple, une foi réelle, vivante, authentique, basée sur la personne de Jésus, sur ses paroles, qui nous permettent de voir que le résultat n'est pas fruit de nos efforts, mais de son intervention. Merci Seigneur. Et un tout petit rien, comme une graine de sénévé, placée entre les mains de Dieu, suffit à faire basculer ce qui nous est trop difficile, ce qui nous est trop dur. On aimerait prendre peut-être un itinéraire pour nous aider à contourner nos montagnes, à se dire, puisqu'elles sont là, il va falloir qu'on trouve un chemin pour les longer, parfois passer autour et à côté, et puis de rester dans l'expectative de voir que c'est bien trop grand pour nous. Jésus dit, alors c'est irrationnel, il dit qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde suffirait à déplacer une montagne. Donc un rien suffirait dans les mains de Jésus à déplacer une montagne, chose qui est impossible. Vous avez déplacé des montagnes ce matin ? Ou vous avez roulé le long des montagnes pour venir ? Bien qu'en Camargue, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, il y a quand même un rapport de choses qui nous dépasse. La première chose que j'aimerais soulever, c'est la semence de foi. On a tous, et Dieu merci, en nos cœurs, une semence qui a été déposée, c'est une semence de foi. Alors on se dit, bah oui, mais bon, avec ça, tu sais, je ne fais pas des merveilles, hein. Mais avec ça, tu vis ta foi, tu vis ta piété, tu vis ton attachement, tu vis voilà, le fait de plaire à Dieu, ou lorsque tu ne plais pas à Dieu, c'est cette foi-là, si petite soit-elle, si importante aussi aux yeux du Seigneur. Alors on va lire dans 2 Rois 5. Voilà, ça va prendre un aspect particulier avec l'histoire de Naaman, le Syrien. On va relire, on va faire trois lectures. 2 Rois 5, verset 1er. Puis après, je vous montrerai une image. Je ne dis pas que vous aurez une belle image, hein, mais une image pour vous montrer le grain de sénévé, si petit, hein, qui est si petit. Voilà, on a cette histoire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va et rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sigles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, et bien que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient avec ses chevaux, ses chars, s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lève-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, il agitera la main sur la place, guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur ?» Il s'en retournait et il partait avec fureur. Et ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé, se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. On va arrêter là. Amen. Donc après, il refuse, hein, bien entendu. N'achète pas le don, l'intervention de Dieu. Alors vous voyez que cette histoire, assez étonnante, parce qu'elle démarre de pas grand-chose. Un peu comme un grain de sénévé. C'est un témoignage qui a été semé dans la vie de cet homme. C'est dit, il était un homme que Dieu a utilisé, un homme que Dieu s'est servi. Et puis cet homme était malade et cet homme avait vraiment besoin. Et cette petite fille-là, on y reviendra tout à l'heure, qui est vraiment un témoignage vivant aussi, eh bien, pour cet homme. Une autre lecture dans Luc 17, verset 5. On va faire les lectures tout de suite. 17, verset 5. Voilà, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Encore un grain de sénevé. Et puis l'incontournable, c'est ce texte de Marc 4, verset 30. C'est une parabole où Jésus explique à quoi elle ressemble et sa fonction. Et donc Marc 4, 30, il dit « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait toutes ces choses à ses disciples. Amen. Amen. Voilà, vous montrant cette image maintenant. Voilà, vous voyez, dans le creux d'une main, une gousse, avec grain de sénévé comme ça. C'est vraiment si petit, si infime. Imaginez ça en terre. Alors, ça doit être séché avant. Ça doit être séché, et puis c'est mis en terre. Et ça prend de la place, ça va grandir, ça va croître. Et puis, ça va devenir utile, même pour que les oiseaux du ciel puissent s'y cacher. Alors c'est si petit, ça démarre de petites choses, on n'imagine pas tout ce que Dieu est capable de faire, même avec ça, vous vous rendez compte? Et l'image que Jésus emploie, c'est de dire que notre foi, on pourrait dire comme les disciples, Seigneur augmente ma foi, je voudrais quand même que ce soit plus conséquent, qu'on fasse des choses, qu'on s'amuse un peu, qu'on voit des choses en grand quand même. Puis le Seigneur il dit non, ça avec ça. Moi, je peux, avec ça, je peux faire de grandes choses. Bon, Seigneur, je veux bien y croire, mais quand même, ça m'échappe. Oui, quand on pense même à un soupir, imaginez, un soupir, Dieu peut accomplir de grandes choses, ça paraît, ça nous échappe tellement, c'est insignifiant. Il y en a qui soupirent ici. Bon, vous voyez, donc dire rien qu'avec ça, Dieu peut encore faire de grandes choses. Alors, vous ne faites peut-être pas de la culture au point d'avoir en pagage chez vous des grains de sénévé comme ça. Mais voyez-vous, l'illustration que Jésus nous en donne, c'est quand même étonnant de voir que les graines, si petites, environ 1 mm de diamètre, recouvertes d'une peau, donc il ne faut pas confondre avec la graine de moutarde, un peu piquante, comme un condiment moutarde, mais là, la graine de sénévé, Jésus nous montre qu'avec ça, il peut faire de grandes choses. Alors je pense qu'il faut peut-être s'asseoir et réaliser qu'avec ça, c'est une semence de foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc une parole de Christ semée dans nos cœurs, on dirait, ça m'a rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien senti. Je suis venu peut-être pour l'une des premières fois à l'église, oui j'ai entendu, j'ai pas forcément tout saisi, je suis reparti, j'ai l'impression rien à voir. Mais cependant, le Seigneur plante une semence. Tu ne l'as pas vu passer, mais la semence, le grain de sénévé, déposer cette parole de Dieu qui va prendre du relief. Oui, on pourrait peut-être repartir sur le chemin de la vie, repartir à d'autres préoccupations, à d'autres besoins et problèmes. Et puis un jour, reviendra cette parole avec un écho un peu plus fort, avec cette dimension pour nous interpeller, nous amener à comprendre que Dieu nous attend au virage peut-être de pleurs, de souffrances, de soucis, de difficultés, quelles qu'elles soient, et nous mettre au défi et comprendre qu'en fait, Dieu peut aussi intervenir à notre endroit. Ça a démarré de pas grand-chose. Et pourtant, le Seigneur accomplit là toute sa volonté. Alors les apôtres font bien aussi de dire, Seigneur, augmente-nous la foi, il nous faut quand même progresser, il faut que ça puisse prendre de l'envergure, il faut que ça puisse avoir, oui, quelque chose qui se passe dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin d'une dose massive de foi pour faire face aux exigences du royaume, parce que pour plaire à Dieu, il en faut quand même. Il faut des violents, il faut des bien-aimés, des personnes qui s'attellent à chercher à plaire à Dieu, qui agissent peut-être à contre-courant, et qui vont remonter le courant des passions, des pulsions de ce siècle, de tout ce qui est mis et présenté devant nous. Et il va falloir être courageux quand même. Seigneur, je me sens seul. J'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose en poche. Et tu me dis, avec ça, je peux avancer. Alors oui, ça réside pas dans tout ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Vous savez, on a une collection d'un ensemble de choses, mais c'est pas ça qui peut nous sauver. Oui, on est venu nu, on repartira nu. Il faudra comparaître devant Dieu, pourvu seulement qu'on soit en paix avec Dieu, qu'on soit réconcilié avec Dieu, pourvu seulement qu'on puisse penser au fait que Jésus est venu sur cette terre pour m'aimer, me sauver. De pouvoir dire, Seigneur, je fais appel à ta grâce, je fais appel à ton secours. Jésus, tu es mort à la croix pour mes péchés, je fais appel à toi. Oui, c'est cette semence dans nos cœurs qui nous donne à considérer qu'il y a quelque chose de merveilleux à vivre sur la terre. Et c'est une vie nouvelle, mais c'est aussi la perspective de l'éternité. Et voyez-vous, ça commence avec une petite semence, un grain de s'élever dans nos cœurs. Ah oui, mais Seigneur, moi je suis pas comme le frère ou la sœur untel. Quand lui, il prie, oh, ça déménage. Hein. Et puis, il faut voir les capacités qu'ils ont, les moyens qu'ils ont. Ils ont la possibilité de faire ce que je ne peux pas faire. Moi, je n'arrive pas à me relever, je n'arrive pas à me rassurer, je n'arrive pas à me réjouir. Qu'est-ce qu'on a de plus? On n'a rien de plus. On a tous 1 mm². Hein, chacun, dans notre cœur, le grain de s'énever, c'est la même taille pour chacun. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Chacun votre grain de s'énever. Avec ça, on va repartir. Et puis dans la semaine, on va dire, mais Seigneur, c'est possible de te voir à l'œuvre. La parole qui parfois, ah oui, est une parole vivante et efficace. Oui, merci Seigneur. Alors Naaman, je reviens à notre personnage, parce que lui, ça a fait tilt. Pourquoi? Parce qu'il était lépreux. Donc il s'est dit, ah tiens, si je pouvais être guéri, c'est pas mal. Parce que cet homme était utilisé, et Dieu s'était servi de lui, mais son problème, malgré tout, il y avait le prestige, il y avait la victoire militaire, il y avait les richesses, les faveurs du roi, mais le problème, la Bible dit 2 Rois 5.1, mais il était lépreux. Mince, et bien lui aussi, il a son lot de difficultés, il était fort et vaillant, et face à l'impasse de la maladie, ni son rang, ni son or, peut le sauver. Comprenons que c'est une réalité qui touche tellement dans cette dimension de la simplicité qui fait que, bah voyez-vous, le grain de sénévé, soit tu l'as pas, mais tu as l'impression que quand tu l'as, tu n'as pas forcément grand-chose, hein, mais il est quand même là. Et voyez-vous, cet atout que nous avons, eh bien avec le royaume de Dieu, qui vient peut-être de manière à ne pas frapper les yeux, mais qui vient simplement pour nous préparer et nous donner de prendre conscience que Dieu nous veut. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein. Et c'est ça le plus beau. Merci Seigneur. Et là, face à la lèpre, c'est... Oui, c'est le moment aussi d'en parler, parce que la lèpre préfigure dans la Bible le péché, en fait. Préfigure vraiment, et les parallèles sont assez intéressants pour vraiment donner de comprendre que cet homme, il était frappé d'un mal qu'il ne pouvait guérir par lui-même. La preuve, il vient vers le prophète. Il dit, mais cette petite a dit que je pouvais te guérir, donc je viens, et puis je te ramène plus qu'un grain de sénévé pour te payer, de manière à ce que moi je puisse repartir et être guéri. Et nous voyons qu'il y a une symbolique qui est derrière tout cela. C'est que la lèpre, comme le péché, nous sépare. C'est ce qui suscite l'isolement, l'exclusion. À l'époque, quand il y avait un lépreux, un lépreux, impur, et lui-même avait une distance par rapport aux autres, et lui-même ne pouvait pas exposer les autres, et il devait s'afficher comme tel. Imaginez, aujourd'hui, s'afficher comme tel, c'est comme si on est pécheur et on s'affiche comme tel. Il vivait d'une manière exclue de la communauté, éloigné du sanctuaire, du bienfait qu'il y avait à vivre, bien la présence de Dieu, tout cela. Et c'est sûr que le péché aussi crée une rupture. Alors quand on n'a pas été connecté avec Dieu, avec le ciel, quand on n'a pas été forcément éduqué dans des valeurs chrétiennes et qu'on a été initié à prier, à lire la Bible, on n'avait rien, nada, on n'avait rien, égale rien. C'est même pas un grain de sénévé, on n'avait rien. Donc on démarre de rien, on n'a rien et on n'aboutira à rien. Mais quand on vient à l'Évangile et même si on croit que rien ne se fait, il y a une semence qui est là et c'est la semence de Dieu. Et c'est cette semence-là, le royaume de Dieu qui vient aussi pour nous éloigner du péché sous toutes ses formes et nous permettre de vivre et de goûter combien le Seigneur est bon et combien il veut aussi nous préparer et nous sortir de l'isolement de nos péchés, de l'exclusion due à nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et les textes nous le disent bien que Lévitique 13, 45, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, aura la tête découverte et il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Tant qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure est hors du camp. Donc imaginez déjà à l'époque, quand on parlait de cela. Et puis le prophète Ésaïe en parlera aussi, il dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. » Donc la lèpre, comme ce monsieur Naaman était frappé, le péché frappe toute créature. Et donc c'est comme la lèpre qui ronge les membres, ronge aussi le péché, ronge nos cœurs, notre âme, nous fait du tort. Le péché nous ronge et s'étend progressivement à atteindre et à contaminer quelque part l'être dans son ensemble, dans son équilibre. Le corps, l'âme, l'esprit, en fait, on est affecté quelque part par le péché. On pourrait se dire, oh, c'est un petit péché, quand même, petite tolérance, hein. Ben oui, mais non, ça finira toujours mal. Une mauvaise pensée, peut-être, une mauvaise parole, peut-être un petit vol, pas un gros quand même, c'est pas une banque, hein, on n'a pas cassé une banque, mais on a piqué dans le porte-monnaie, vous voyez. Et donc, on comprend et on réalise qu'en fait, sous toutes ses formes, le péché grave, il est grave, il ronge, et il va s'étendre un peu comme la lèpre sur un corps et faire du mal. Il nous est dit, il l'examinera, donc le sacrificateur, il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, c'est une lèpre invétérée, l'objet est impur. Lévitique 13, 51. Et la Bible dit aussi dans Jacques 1er 14, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché arrive à son terme, il produit la mort. Voyez-vous, c'est pareil, il s'étend. Il prend de la place et ne reculera rien, devant rien le péché. Et il nous emmènera. Il nous emmènera et c'est sûr. Et ceux qui ne veillaient pas sur leur comportement, leur parole, il est dit dans 2 Timothée 2, 17, « Leur parole rongera comme la gangrène ou la chancre ou la lèpre » dans certaines traductions en fait. Donc on s'aperçoit que le péché peut nous gangréner, peut nous s'être attaché à nous, à nos paroles même. Et au lieu des paroles de bénédiction, c'est des paroles de malédiction. Ça atteint, ça blesse, ça fait du mal et le mal s'étend par ça. Il y a des paroles qui découragent, il y a des paroles qui ne sont pas bonnes et qui feraient mieux d'être peut-être méditées ou abandonnées parce que c'est des paroles qui font mal. Alors comme à Jérémie le prophète, il était dit « Venons, tuons-le avec la langue ». On va pas lui porter des coups, on va rien faire, on va faire ça en douce, en finesse. On va le tuer par la langue. Puis il y a des paroles qui font vraiment du mal. Et donc on le comprend, le péché ronge et il s'étend progressivement. Donc il faut un remède pour cela. Et c'est vraiment la personne de Jésus qui nous donne toute cette richesse. Amen. Le péché nous défigure. Bon, on a toujours le nez en plein milieu de la figure, etc. Mais il va détruire nos mécanismes de défense. Il va mal définir notre bonheur. Il va nous attirer vers le bas, en fait. Il nous détruit de l'intérieur. Et quand il y a le péché, la désobéissance dans le jardin d'Éden, en fait, ils étaient appelés à vivre éternellement. Il y avait le fruit de la vie qui était là, à portée de main. Et Dieu va barrer l'accès parce que dira non, le mal s'est propagé. Il faudra maintenant qu'il ait son œuvre et qu'il fasse venir celui qui va réparer, celui qui va guérir, celui qui va couper le germe du péché. Et c'est la personne de Jésus, la préfiguration de Jésus qui devait venir. Donc, on voit que, oui, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Nombre 12, 10. Marie était frappée de lèpre après son orgueil et ses murmures vis-à-vis de Moïse. Donc c'est une lèpre qui définit le péché en fait. Elle était frappée de cette lèpre et comme vous avez aussi du temps du roi Ozias, Ésaïe aussi, et lui qui a outrepassé ce que Dieu lui confiait et dans ce que Dieu lui donnait de faire et ce qu'il n'avait pas le droit de faire, il l'a fait, la lèpre a frappé. L'a frappé sur le front. Et malheureusement, sa vie était devenue un cauchemar. Au lieu de se ressaisir, se resituer, de plaire à Dieu, eh bien, voyez-vous, le camp de l'Éternel a été arrêté parce que Marie était frappée d'une lèpre, parce qu'elle avait désobéi. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Donc, on comprend que ça va très loin. Parce que ça peut nous ronger, s'étendre, mais ça peut nous défigurer, ça peut détruire de l'intérieur. Et puis ce qui peut être caché pour un temps, à un moment donné, ça va sortir. La lèpre, elle ne reste pas cachée. Elle ne reste pas sur des membres invisibles, mais elle s'étend partout. Et ça s'étendra d'une manière, oui, qu'on n'aurait pas souhaité, qu'on n'aurait pas voulu. Et tout cela, c'est aussi pour montrer l'impureté et la nécessité que de dépendre de Jésus, celui qui sauve, qui guérit, qui pardonne et qui relève. Alors oui, si ça devait être vu, c'est parce que c'est le fléau a frappé et il fallait aussi qu'il y ait des dispositions prises. Et le psaume 38 dit « Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Un peu plus loin, il est dit « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. C'est un mal dévorant rempli mes reins et il n'y a rien de saint dans ma chair. » Amen. Donc vous l'avez compris, il y a la nécessité d'être purifié. Hein, d'être purifié, c'est ce que Jésus vient faire. Croyez que c'est une bonne nouvelle. Amen. Hein, c'est plus qu'un grain de sénévé, c'est s'approprier une œuvre de délivrance, de transformation. J'étais rongé par des pensées impures, j'étais détruit par des actes condamnables, j'étais défiguré, détruit de l'intérieur, je ne savais plus aimer, j'étais mal aimé, je ne savais plus aimer, je n'avais plus quoi faire. Imaginez, c'est vraiment la réalité de nos vies, sans Christ, sans foi, sans espérance. Et lorsqu'il vient pour semer cette parole, elle est libératrice, elle va nous conduire, elle nous parle du royaume, elle nous parle d'une vie différente. Et merci Seigneur pour tout ce qu'il est capable de faire, capable de nous guérir, nous purifier. Ah, c'est bien plus qu'un simple remède humain, hein. C'est la solution divine, la solution que nous avons en la personne de Jésus. Purifie-moi avec l'hysope. Hein, c'est plante utilisée pour la purification des lépreux dans Lévitique 14. Et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut. Oui, nous purifier, qui peut pardonner nos pensées, nos actes, tout ce qui est de l'intérieur, oui, tout ce qui sort du cœur, c'est lui qui fait son œuvre. La Bible dit encore dans 1 Jean 1, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Voyez-vous que ce grain de sénevé a déjà grandi, certainement plus grand qu'on ne penserait. Et merci Seigneur pour l'envergure, la taille qu'il prend. Voyez-vous, je m'arrêterai maintenant sur le témoignage de cette petite fille. Oh, c'est une enfant, elle a lâché une parole comme ça, tu sais. Elle a dit, si tu venais, oui, si tu allais voir le prophète, il pourrait te guérir. Alors, c'était pas forcément bien défini. Bien sûr, c'est pas le prophète qui pouvait guérir, c'est Dieu qui peut se servir de lui pour amener la guérison. Donc, il faut avoir une nuance quand même qui réajuste bien. Mais quelle audace pour cet enfant. Imaginez nos enfants qui sont là ce matin. Et qui, au retour du culte, qui pourrait aller dire à une personne en détresse, on n'oserait pas, on dirait non, c'est pas possible de lâcher une telle parole, ça va au-delà même de ce qu'on pourrait maîtriser ou pas, vous vous rendez compte? On peut pas aller donner une parole devant cette situation-là, d'une personne tellement malade, tellement éprouvée de... abstiens-toi quand même, la sagesse vaut mieux peut-être s'abstenir. Et puis la petite, elle arrive, oh, elle sort cette parole-là. Alors lui, il fait entendre ça, et il y va, et puis il fait demander, lui, il lui envoie un courrier, il fait parvenir un courrier, il arrive là-bas, il fait parvenir au roi, et scandale, quoi. C'est quoi cette affaire-là? Qui a dit ça? Oh, c'est une petite. Et du coup, heureusement que le serviteur de Dieu était là. Elle dit, tu me l'envoies, et puis on va voir ce que Dieu va faire. C'est beau, hein? Imaginez le témoignage d'un enfant. Eh oui. Il faut que parfois ce soit les enfants qui parlent. Parce que nous, on se dit, Seigneur, j'ai rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as un grain de sénevé? Ouais, mais quand même, avec ça, on va pas aller loin. Eh bien, un enfant, lui, un grain de sénevé, il s'en sert. Il a cette foi qui va amener la différence et la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Alors que Dieu bénisse les enfants. Hein. Amen. Que Dieu bénisse les enfants, c'est si bon de les voir dans leur simplicité, leur authenticité, de voir, c'est une simple semence de foi. Et cet homme est travaillé, il est travaillé parce que, vous imaginez bien, un lépreux qui, voilà, est-ce que tu veux être guéri? Oui, quand même. Et elle a mis une semence dans son cœur. Ça dirige, ça dispose tout ça, ça change le cours d'une histoire, d'une nation. C'est vrai, et merci Seigneur, parce que le témoignage d'un enfant, Seigneur, pourrait servir des enfants. À notre insu, nous, on n'aurait rien vu, parce que un grain de sénevé, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais Dieu sert quand même des enfants, et se sert de tout ce qu'ils ont à leur portée. Merci Seigneur. Alors il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de témoignages qui peuvent nous parler de tout cela. Un jeune garçon avec 5 pains de poisson. Je veux bien que tu amènes ça, mais dis, on est quand même 5 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 5 pains de poisson? Quand même, tu peux retourner au boulanger et puis au poissonnier. Puis tu commandes en gros, en grande quantité. Eh bien, voyez-vous, Jésus avec ses paniers de reste, il en a fait encore pour un moment. Et donc, merci Seigneur. Et merci Seigneur parce que il y a le témoignage de cet enfant. Imaginez que vous êtes ignorant aux choses de Dieu et c'est un enfant qui vient vous parler des choses de Dieu. C'est admirable. C'est admirable. Oui, ça manque peut-être de connaissance, de profondeur, mais c'est la parole, le déclic favorable. Que Dieu bénisse nos familles, nos enfants. Que Dieu se serve d'eux, que cette parole parfois qui a été donnée, ce témoignage qui leur a été donné, cette instruction, on se dit, Seigneur, oui, il semble parfois vivre autrement. Et puis d'un coup, d'un seul, ça peut aller si vite. Lorsque le Seigneur fait son œuvre, il a mis en leur cœur une semence, un grain de sénévé. Oui, c'est comme ça que ça commence. Merci Seigneur. Alors j'aimerais aussi m'arrêter un petit peu, si on parle de la semence de foi. Il y a tout cela, on a parlé du péché, mais il y a aussi des problèmes pour Naaman. Ce n'est pas si facile pour lui. c'est quand même un homme qui a pu être un instrument dans les mains de Dieu. Mais cet homme qui a reçu cette parole et puis que le prophète lui fait dire, le prophète il vient même pas en personne, il lui fait dire par un serviteur. Hein, on aurait pu peut-être mettre les diapos et trouver ces images. Il lui fait, voilà, il y a cette petite qui lui témoigne. Et puis il y a aussi ce serviteur qui, un petit peu plus loin, cet homme vient, il vient. Et il pense avoir le prophète, l'homme de Dieu qui vient, et lui en personne quand même, c'est le moins qu'on puisse lui demander, et il vient même pas. Il vient même pas au rendez-vous. Ah bah lui, il est pas mal, tiens, je vais le noter. Et il vient même pas au rendez-vous, et puis est arrivé chez Élisée avec son cortège, est présent, il a tout préparé en fait. Il vient pas pour dire « je vais repartir à vide et je lui ferai parvenir », etc. Non, non, il a tout prévu pour le gratifier, pour le remercier. Et puis il s'attend, il est comme une cérémonie officielle. Quand même, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui vient là. Et Élisée sort même pas, il lui dit, et il lui fait dire « va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Oh, moi je me lave, hein. Chez ma toilette, et toi tu me demandes de refaire ma toilette. Et il nous a dit qu'il s'en va furieux. Hein, versets 11 et 12. Pourquoi la colère ? La solution de Dieu semble blesser son égo. Aïe. Bon, il est arrivé là, mais ça ne va pas forcément dans le bon sens. Le Jourdain lui paraît banal, voire humiliant par rapport au fleuve de Damas. C'était pas du tout la même qualité, les eaux, etc. Bon, on va pas s'attarder sur ça. Mais la colère manque d'étouffer la semence de foi avant même qu'elle ne germe. Oui, ben, si c'est ça, voilà. Hein. Et donc, ça se terminerait aussi vite que commencé. Mais combien de fois l'amertume où la déception peuvent détruire ce que Dieu a voulu semer en nous. Ah, ça paraissait pas être aussi fort, aussi démonstratif qu'on l'aurait souhaité. Cependant, le Seigneur a fait son œuvre. Et souvent, oui, la foi vivante commence simplement. Mais il faut qu'on accepte de dépasser notre crise, ou nos crises du moment, et de déposer nos déceptions et puis laisser Dieu agir à sa manière et en son temps. Amen. Alors, il y a, je trouvais dans ce texte, il y a quand même pas mal d'obstacles, en fait. Croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, cet orgueil, penser qu'on peut résoudre les choses par soi-même. On voit aussi, d'une certaine manière, le refus de s'humilier. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui, là, tu m'excuseras. Mais alors, un autre, ok, mais moi, non. Hein. Là, je suis le grand chef, hein. Et au début de son récit, l'incapacité même d'accepter une simple demande, renoncer à son statut, à son rang, voilà, pour recevoir la faveur. Quoi ? Moi, c'est aller me laver dans ce fleuve-là ? C'est impensable. Jamais, même pas en rêve. Et puis, il y a cette logique, c'est le mécanisme humain, ça, on ne peut pas le changer. Vouloir tout expliquer rationnellement, avoir notre définition, notre explication des choses. Et ça, ça colle pas avec un grain de sénévé. Toi, tu déplaces des montagnes. Moi, non, 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 faut arrêter là. On n'y croit pas. C'est la logique humaine. C'est la logique humaine. Et aussi, vouloir dicter à Dieu comment il doit agir. C'est quand même pas mal, ça aussi. Oh, je me disais, voilà, il va sortir, il va invoquer le nom de son Dieu sur la place et peut-être même un tapis et vas-y, quand même, je suis arrivé, envoie. Et non, rien du tout, c'est un serviteur qui vient, certainement qu'il ne lui a pas plu, lui. Il devait l'avoir en ligne de mire et se dire, mais c'est qui celui-là ? Et puis il lui fait entendre des choses qu'il n'accepte pas. L'impatience. 7 fois dans l'eau ? Ça pourrait pas être une seule fois, et puis mire express. Et puis d'un coup d'un seul, talin, monsieur propre. Non, 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 il n'y a rien là. L'impatience, les 7 immersions, et quelque part à se dire, mais ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Et puis le doute, etc. Et puis il y a des gens qui me regardent. Vous imaginez un peu tout ça, si on gratte un peu, ça peut devenir embarrassant. Et ce grain de sénévé là, C'est pas grand-chose qui est mis dans son cœur. Ça pourrait lui apporter la guérison, mais à côté, avec tout ce qu'il y a à côté, ça pourrait certainement le détourner. Croyez pas ? Croyez pas qu'on est tous là, qu'on a ces réalités-là ? Alors, on va avancer, et puis on voit chez Naaman, il y a le pas de la foi. Il ose faire un pas. C'est cette obéissance qui va permettre à Dieu de faire son œuvre. Voilà, il va s'abaisser, c'est descendre dans l'eau. On va comprendre qu'il va persévérer jusqu'à la septième fois. Il s'est plongé une fois, ça n'a rien fait. Deux fois, il n'y a pas eu un mieux. Trois fois, il n'y a rien eu. Quatre fois, rien. Sixième fois, rien encore. Quand même, on aurait vu une progression, vous voyez, on y aurait cru, quoi. Puis 7 fois, 14 fois, 20 fois, tu m'aurais demandé plus. Il n'y a pas de problème, on aurait vu une progression, ça irait bien, mais de 6 à 7, il n'y a rien. Par contre, 7e fois, alors là, merci Seigneur. Alors continuons peut-être. Nous sommes à la 2e fois, 3e fois, 6e fois. Frères et sœurs, ça vaut le coup de continuer dans l'obéissance. Ça vaut le coup de persévérer. Oh, il n'y a pas grand-chose, tu te raccroches à pas grand-chose, ça paraît si insignifiant, peut-être pour d'autres, mais toi, c'est tellement important pour toi. Et oui, merci Seigneur, parce que, eh bien, il y a cette obéissance, et puis il y a la persévérance, et merci Seigneur. Oui, parce que c'est devenu un modèle et un exemple aussi pour nous. Alors que le Seigneur puisse nous aider à assimiler ces choses-là, et puis dire... peut-être remplacer des grandes choses attendues, des grands projets par des petites choses, des petits gestes, puis se fortifier davantage, laissant le Seigneur faire. Oui, que même si rien ne bouge, c'est pas grave. C'est comme le serviteur voilà, qui est envoyé par Élie pour voir... cette fois aussi, hein, là aussi, hein, j'avais fait des parallèles aussi, on n'a pas le temps, mais cette fois, il est envoyé, la septième fois, ben, je ne vois pas grand-chose, je vois comme un grain de s'élever, là c'est un petit nuage dans la paume d'une main, ça revient à peu près pareil. Hein, et il se dit, ben là c'est bon, on y va, et il rentre, et il se dépêche, il court. Il court vite, hein, l'homme de Dieu, hein, que je puisse courir aussi vite, moi, tiens. Et donc... qu'on puisse déposer tout cela au pied du Seigneur. J'aimerais terminer avec une anecdote. En 1910, un effondrement s'est produit dans une mine de charbon aux États-Unis, coinçant un groupe de mineurs à des centaines de mètres sous terre, dans un noir absolu et un silence de mort. Paniqués, certains commençaient à suffoquer par l'effet du stress, du désespoir. Le chef d'équipe, un homme de foi, a gardé son calme. Il a sorti de sa poche une toute petite lampe de poche mécanique. Une lampe très faible, qui ne durait que quelques secondes si on pompait avec la manivelle. Il a allumé la lampe. La lumière était minuscule, à peine suffisante pour éclairer la paume de sa main. Mais dans cette obscurité totale, les yeux de tous se sont fixés sur cette lueur. Il leur a dit, les gars, cette lampe ne va pas vous éclairer toute la mine. Elle ne va pas vous déblayer les rochers, mais elle nous montre deux choses. Nous sommes encore vivants et nous sommes ensemble. On ne va pas chercher à voir la sortie aujourd'hui. On va juste garder cette petite lumière allumée minute après minute en attendant qu'on vienne nous chercher. Ils sont restés bloqués là plus de 3 jours, à tour de rôle, sans s'arrêter. Ils ont actionné la manivelle pour garder cette étincelle vivante jusqu'à l'arrivée des secours. Ils n'ont pas attendu de grandes choses. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Quand nous sommes dans le noir et que nous attendons bien la sortie du tunnel, nous avons un grain de sénévé. Nous avons la lumière dans nos cœurs. Ça vaut le coup d'attendre qu'il vienne nous chercher, qu'il envoie les secours, que le Seigneur vienne nous sortir d'affaires. Le Seigneur nous attend jusqu'à la sortie. Hein, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ne laissons pas l'orgueil, ne laissons pas la déception, ne laissons pas les problèmes nous conditionner, alors que parfois un grain s'est levé. Ça semble être petit, ça semble pas faire grand-chose, mais au travers de cela, le Seigneur accomplira toujours sa volonté. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ta parole est lumière et elle éclaire notre sentier, elle éclaire nos cœurs, nos dispositions, nos besoins, nos difficultés. Seigneur, nous reconnaissons qu'en toi, nous pouvons vivre et pouvoir nous appuyer, Seigneur. Tu nous partages toutes ces vérités de ta parole et nous puissions, Seigneur, encore nous tenir à tes pieds pour avoir des dispositions, Seigneur, à accueillir. Et Seigneur, ce grain de sénévé, Seigneur, à accueillir la foi comme peut-être des moyens, Seigneur, qui ne sont pas humains, Seigneur, ne cherchent pas, Seigneur, l'apparence de grandes choses. Mais Seigneur, tu fais, tu feras ton œuvre. Seigneur, nous avons été choisis pour recevoir de toi cette semence et voulons te remercier, Seigneur, alors que beaucoup pourraient se moquer, pourraient mépriser, pourraient, et Seigneur, oui, avoir, et Seigneur, un intérêt à bien d'autres choses. Merci de nous avoir fait grâce. Merci d'avoir déposé dans nos vies cette semence. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Seigneur, nous voulons chérir et garder. Seigneur, oui, Seigneur, ce qui est le plus précieux, le plus beau qui soit, c'est de voir ton œuvre croître et grandir. Seigneur, tu es merveilleux dans ta fidélité. Seigneur, tu as osé regarder à nous, tu nous as tendu la main. Tu as mis, Seigneur, ce germe de vie, Seigneur. Et merci, merci pour toute grâce excellente qui descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, merci. Garde nos cœurs et nos pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.